Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième podcast. Aujourd'hui, je m'appelle Marie-Josée, je suis superviseure clinique à la Maison de la Margelle. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, ça fait quand même un petit bout de temps que je travaille ici. Donc, je travaille à la Maison de la Margelle depuis 2005. J'ai été intervenante et dans mon poste de superviseur clinique, ça doit faire une dizaine d'années que je fais ça. Donc, aujourd'hui, c'est tout un plaisir. Puis, j'ai surpris la personne que j'ai invitée. Je viens de l'avertir, dans le fond, lui demander « Hey, Mathieu, ça te tenterait-tu de faire un podcast aujourd'hui, vu que t'es ici? » Puis, Mathieu me regarde et fait comme « Ah! » Là, ben oui, pourquoi pas? Donc, Mathieu est un ancien résident et quelqu'un qui il a utilisé quelques services. Il n'a pas juste utilisé les services de la Maison de la Margelle. Il va pouvoir nous en jaser. Mais moi, ça fait vraiment une couple d'années. Depuis quelle année à peu près, Mathieu, qu'on se connaît?
En fait, depuis 2010.
2010. Ouais. Première fois. Donc, Mathieu, je te laisse te présenter à notre audience.
Mais bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu, moi je suis dépendant. Ça fait très longtemps que je suis dépendant. Avant même de consommer des substances, je l'étais, sauf que je ne le savais pas. Je me présente comme étant un garçon qui a eu une bonne enfance, une bonne famille, des bons parents qui sont toujours ensemble. Qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec nous autres, puis je veux dire, j'ai absolument rien à leur reprocher dans la façon dont ils nous ont élevés. Moi, j'ai une sœur un petit peu plus jeune, puis elle aussi indépendante, donc en établissement tous les deux. C'est super. C'est à peu près ça, là. T'sais, j'ai quand même un parcours assez houleux, autant avant qu'après le rétablissement. Je vais vous raconter ça en cours d'entrevue.
Fait que là, Mathieu, tu nous dis que tu es arrivé, dans le fond, qu'on s'est connu en 2010. Donc, 2010 doit être le point de départ de ton rétablissement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010?
En fait, c'est avant ça. Nous, on se connaît depuis 2010 parce que c'est la première fois que je suis venu ici. Mais moi, mon rétablissement a commencé en fait en 2007, là où j'ai commencé à vouloir me rétablir. Premier meeting, en fait, en 2007, de la fraternité AA, parce que Sorel, à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait plus d'ENA. Peu importe la fraternité, de toute façon, on arrive comme on peut dans les salles. Fait que, premier meeting, je me rappelle plus de rien, pas en tout, en fait. Puis j'étais à jeun dans le meeting, mais j'étais dans une période où ce que je consommais tous les jours. Et puis, tout ce que je me souviens, c'est qu'à la fin, en fait, c'est ma soeur qui m'avait amené là. Puis à la fin, je m'étais levé pour prendre un médaillon, une enveloppe du nouveau, puis... Ce que je me souviens, c'est que le monde m'applaudissait puis il était venu me féliciter à la fin. C'est absolument tout ce que je me souviens. Donc, le début de mon rétablissement, ça a été ça. Ensuite, ça a été comme une période d'un an avant que je veuille faire un autre meeting. Parce qu'en fait, j'étais allé parce que j'avais eu de la réclame un peu de la part de ma soeur à cette époque-là. J'en remercie d'ailleurs. Mais ça a quand même pris un an avant que je sois prêt à faire une première thérapie en 2008 que là, j'ai décidé de faire le move puis le grand saut. J'ai fait genre la pointe 3 semaines. À ce moment-là, ça a bien décollé, ça l'a bien pogné, j'ai commencé à... Là, je voulais vraiment. Fait que je suis bien parti, là, j'avais le feu dans les dents, en guillemets, de la façon que je dis ça. Je faisais full meeting, j'étais full impliqué. Je me promenais partout faire du meeting, sur la Rive-Sud, puis même Montréal, parce que je voulais faire genre la pointe, j'avais un suivi à faire. Fait que, en fait, j'ai vraiment adhéré à faire du meeting. J'en ai fait un par jour pendant, je pense, 5 mois, là. Un à deux par jour, puis je travaillais. Je veux dire, j'étais pas chez nous à attendre, là. Fait que je voulais vraiment. J'ai continué comme ça. J'ai fait un an et demi, en fait, d'abstinence. À ce moment-là, j'allais quand même bien, mais je veux pas tarder trop. Mais bon, j'ai des problèmes de dépendance affective qui sont ressurgis, en fait. Tu sais, quand j'ai arrêté de consommer... paquet de défauts de caractère que j'engourdissais, en fait, qui sont revenus puis qui sont montés à la surface. Fait que toutes les années que j'avais perdu, je me disais, là, faut que je me reprenne en main. Je veux aussi, puis tu sais, la volonté déchaînée de tout vouloir récupérer ou de tout vouloir ce que j'avais jamais eu, monté en force. Fait que j'ai pas fait ça de façon correcte, en fait. Les étapes, je les faisais à ce moment-là, mais c'était en surface, vraiment, là. C'est correct à ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'être... de sortir de mon isolement. Fait que c'est ce que j'ai fait, je me suis promené énormément. Donc, je reviens un peu à l'histoire de relations affectives. Je rencontre quelqu'un dans une salle, puis finalement, ça touffe une couple de mois, puis on repart tous les deux sa rechute. Fait que, après ça, je suis abouti à la maison de Margelle, justement, dans début l'hiver 2010. Donc, c'est comme ça que mon parcours a croisé la maison de Margelle.
Wow! Je t'écoute déjà, il s'était passé tout plein de choses. Il y a plusieurs affaires que tu dis, dans le fond, que moi m'accroche. La première chose, c'est que tu as aimé ça, dans le fond, tout ce qui était les réunions d'abstinence. C'est le fun parce que c'est pas tout le monde qui accroche puis qui en mange autant que toi, là, parce que t'es arrivé puis tout de suite, tu as aimé ça. Là. Qu'est-ce que tu as retrouvé là qui fait que ça l'a accroché?
Tout à fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'était je consommais tout le temps tout seul chez nous. Moi, je consommais plus en groupe. Hein, fait que ça faisait 5 ans que je consommais tout seul dans mon salon. Je travaillais, je consommais. C'était ça ma vie. Fait que je suis sorti là de. Ça a comme explosé. Puis je voulais être entouré de monde. Je voulais connaître du monde. Je sortais de mon cocon, là, vraiment. Là, je me sentais vraiment une nouvelle vie qui se présentait à moi, puis j'ai sauté dessus. Là. Fait que vraiment, c'était de sortir de l'isolement qui était important à ce moment-là pour moi, puis de connaître des gens. On me disait des choses, tu sais, parle à du monde, reste avec du monde, va faire des after meetings. Moi, je travaillais le jour, j'allais même pas chez nous, en fait, parce que il y a eu un certain délai entre le moment où j'ai fait ma thérapie, ma première thérapie en 2008, puis. Le moment où j'ai pu déménager, fait que j'étais encore dans la maison ou le logement en fait où ce que je consommais, fait que je m'arrangeais pour jamais être là, pour pas me donner pas de chance en fait. Fait que je travaillais le jour, j'allais au restaurant, j'allais faire un meeting, puis je courais après les after meetings, je revenais chez nous le soir à 11h, je me couchais. Fait que c'était mon rythme de vie pendant plusieurs mois. Donc justement pour éviter, pour casser le pattern de l'isolement, puis pour pas être chez nous en fait, c'était une forme de pas d'étourdissement, mais c'était un autre mode de vie qui commençait à se pointer, faire autre chose que me geler puis être à la maison. Fait que j'ai vraiment apprécié cette période-là de mes débuts. Là. D'ailleurs, des fois, je suis un petit peu nostalgique de ce moment-là, parce que c'est sûr qu'avec le temps, on en fait un petit peu moins, les choses s'estompent, ça s'adoucit, tu sais, l'établissement, ça se nivelle, puis ça fait comme un plateau après un certain temps, fait que c'est normal, puis c'est correct que tout ce que j'ai vécu dans mon rétablissement, incluant les rechutes, font partie d'un processus qui sur plusieurs années. Là. Mais à ce moment-là, moi, j'étais sur un nuage rose, puis je le vivais intensément, puis c'était bien correct, ça me faisait vraiment du bien.
C'est beau ce que tu nous dis. T'as vraiment découvert une appartenance dans les réunions, dans le fond, d'abstinence, un groupe dans lequel tu te sentais bien, puis que t'as créé le fameux « nous » en avant des étapes. Pour toi, ça a été l'élément qui a fait que t'as accroché. Puis ça doit être la même chose pour plusieurs dépendants, là, la force du « nous ».
Tout à fait, oui. Puis... Moi, ça me permettait justement de connaître plein de monde. Je me suis rendu compte qu'après quelques mois, je connaissais tout le monde. Je faisais un meeting A par jour ici, puis je faisais du NA en région un peu en dehors. Fait que ça a pas été long que tu fais le tour. Tu sais, t'as fait le tour, puis tu connais pratiquement tout le monde. T'sais. Je dis pas que personnellement, ça a pris du temps avant que je m'implique personnellement avec les gens, mais au moins juste de les connaître, les saluer, puis de voir que c'était toujours les mêmes visages, c'était rassurant. Donc, c'est devenu comme... Moi, c'est devenu comme un port d'attache, faire un meeting. Quand ça allait bien, j'en faisais. Quand ça allait pas bien, j'en faisais. Il y a été des moments où j'en faisais moins. Puis que quand ça me mettait à mal aller, je retournais dans les salles. T'sais. Puis j'ai jamais eu le sentiment que je quittais le mouvement ou que je quittais les salles, même s'il y a eu des moments où il y a eu, effectivement, il y a eu plusieurs semaines, voire même plusieurs mois sans faire de meeting. Je le conseille pas, mais c'est correct pour moi parce que j'ai jamais eu le sentiment que je quittais les salles. Fait que pour moi, je fais partie de la fraternité, c'est la vie. Là. Fait que j'ai toujours ce sentiment-là dedans de moi, peu importe ce qui va m'arriver.
Tu sais que tu as une place, dans le fond, si ça va pas, comme quand ça va trop bien, puis que tu as besoin ou goût de voir des gens, tu sais que tu peux y aller, puis que ça va être là, puis qu'il va encore en avoir demain matin, même si toi, tu n'es pas là.
C'est ça. Puis en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'accueil. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup des salles de meeting, c'est qu'on me dit toujours bonjour, on me donne la main, on me fait une accolade, on me dit salut Mathieu. Avec le temps, on finit par connaître plein de monde, puis c'est toujours intéressant de retrouver ces visages-là, de voir que c'est rassurant, de voir que c'est un peu cliché, mais les mêmes vieilles têtes, tu sais, qui se retrouvent là.
Attends, là, tu commences à en faire partie.
Ben, j'en fais partie à cette heure, c'est ça, là. Fait qu'avec le temps, on finit par faire partie des vieux meubles aussi. Fait que je suis peut-être rassurant pour le nouveau aussi. Fait que c'est de là le fait que. C'est un nouveau qui tourne, hein. Fait qu'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Pas juste parce qu'ils quittent les salles, mais c'est parce qu'il y en a qui sont rendus vieux, tu sais. Fait que ça prend des gens pour renouveler le mouvement, là. Mm-hmm. Parce que on n'est pas là de façon éternelle. La vie, elle a une fin à un moment donné. Fait qu'on peut passer 40 ans petit à un moment donné quand on meurt. Ça en prend d'autres pour remplacer, pour que la roue tourne, finalement.
J'ai tout le temps trouvé ça magique, moi, que quelqu'un qui est dans la solitude, que ça va pas bien, on fait une thérapie, puis après, de savoir, tu sais, t'es gêné, t'es pas gêné, peu importe t'es qui, puis quelle est ta personnalité, t'as pas grand-chose à faire à part, dans le fond, partir de chez toi, prendre ta voiture ou y aller à pied, rentrer dans une salle, ouvrir une porte, puis passer un cadrage de porte, puis voir tout plein de monde à cette heure-là. T'as même pas besoin de les inviter. Fait que si t'es gêné, t'invites pas personne, tu y vas, puis il y a du monde. Il y a du monde dans une salle, tu sais, à telle heure, à tel endroit, tu peux y aller. Puis peu importe où est-ce que t'es en voyage, t'es dans un autre coin du Québec ou t'es même dans un autre pays. Je pense même, toi, je sais pas, mais tu sais, t'as-tu fait des congrès, des choses? Parce qu'il n'y a pas juste les réunions. Je pense qu'il y a toute une vie à côté de ça.
Tout à fait. Ben, moi, j'ai fait quelques congrès. Ça fait quand même quelques années que je dirais que j'ai pas fait de congrès, mais dans mes débuts, je les faisais toutes. J'ai adoré ça. J'ai fait des campings. J'ai même fait des meetings aux États-Unis dans le coin de l'Albanie. Camping, meeting, là, NA, c'était NA. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça au bout des congrès. C'était plein de monde. Quoi. Puis ce qui me touchait le plus, là, puis même à chaque congrès que j'ai fait, là, je broyais. Je versais une larme parce que le moment fort, c'est le nouveau, quand ils font le décompte durant le congrès. En fait, plus pour NA, je ne sais pas s'ils le font en haut, je ne m'en souviens plus. Mais dans NA, c'était un moment fort, puis je me souviens, moi, quand je suis arrivé, j'avais de la misère à m'identifier. Les premiers congrès que j'ai fait, je consommais encore, j'essayais d'arrêter, puis j'étais sédent, j'avais pas fait de thérapie encore à ce moment-là. Fait que, une couple d'années après, quand j'ai vu les congrès puis les décomptes, là, écoute, ça vient me chercher là, émotivement. J'ai tout le temps le mouton dans la gorge quand ils font un décompte, parce que je me rappelle, je me revouais à ce moment-là quand je voulais, puis que j'essayais, puis que j'avais de la misère, je m'arrachais. Je me sens tellement bien aujourd'hui, libéré de tout ça, là. C'est intense. T'sais, malgré que la vie, c'est haut et c'est bas, ma vie n'est pas comparable à avant, là.
Qu'est-ce que tu retiens de tes thérapies? T'en as fait combien, dans le fond, des thérapies?
En fait, j'en ai fait quatre. J'ai fait quatre thérapies. Donc, j'ai fait Jean Lapointe en 2010. J'ai fait la Mergelle en 2008, excuse, Maison de la Pointe. J'ai fait 2010 à Margelle en janvier. J'ai fait un ressourcement à Margelle en septembre. Puis après ça, j'ai fait le centre, je vais pas faire de pub, là, mais j'ai fait le centre Nouveau Regard 3 mois. J'ai fait une thérapie 3 mois la dernière, puis là, ça s'en est vraiment arrivé, mon affaire. Donc j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus solide, là, pour me ramener. J'ai fait ça 2010-2011, à peu près. Donc ma date d'abstinence, c'est le 5 juillet 2011. J'ai pas consommé depuis ce temps-là. Donc, dans un mois, je vais prendre 8 ans. Hein,
dans un mois?
Ouais.
Wow! Qu'est-ce que tu mets dans ton quotidien maintenant que tu as appris en thérapie puis que c'est important dans ton rétablissement?
En fait, que peu importe ce qui se passe, il n'y a aucune raison valable de retourner consommer. Peu importe ce qui se passe. Les pas de recul. Écoute, ça a été difficile pour moi, là, d'apprendre à gérer des émotions comme... la colère, la frustration, à apprendre aussi à dire ce que je pense, parce que j'étais du genre à accumuler beaucoup des choses, puis à pas les extérioriser. Donc, ça devenait souvent un mélange explosif. avec le temps. J'apprends tranquillement avec le temps à gérer ces émotions-là que j'ai intérieurement. J'ai appris à communiquer aussi. Je n'étais pas capable, moi, de communiquer de façon adéquate dans mes débuts. Ça a pris du temps là, que je sois capable de parler doucement, d'essayer de mettre plus d'accueil et d'amour dans mes discours sans être frustré, enragé ou... Tout ça touchait mon ego, hein, fait que mon ego était très, très, très fort. J'avais le sentiment que, vu que je consommais pas, que je l'avais l'affaire. Tu sais, ça a duré quand même plusieurs années, ça, cette affaire-là. Aujourd'hui, je sais que, on disait tout le temps, les dépendants, on est des êtres extraordinaires, mais des toxicomanes bien ordinaires. T'sais. Fait que, moi, j'ai compris ça.
C'est bon.
Ça m'a ramené un peu à l'humilité en me disant, ben regarde, on est tous des êtres extraordinaires, moi inclus. Mais qu'en bout de ligne, on reste avec des défauts de caractère bien banals, t'sais. Fait que c'est juste à apprendre à les gérer.
Puis arrêter de consommer, ce que j'entends, c'est que le début, c'est une infime partie de tout le rétablissement, parce qu'il y a tout le travail après. Un coup que t'as arrêté comme de boire, de te geler ou de jouer, ben t'as tout le reste qui va pas bien, qu'il faut que tu travailles dessus, là.
Mais oui, moi je pensais qu'en arrêtant de consommer, que je deviendrais riche, puis que tous mes problèmes s'évaporeraient du jour au lendemain.
Ah, t'es pas riche?
Non, je suis pas riche, malheureusement, tu sais, je travaille fort là-dessus, mais je suis indépendant, fait que je n'ai jamais assez, fait que... Fait que c'est ça, non, c'est une blague, là, mais c'est ça, ça a été une découverte. Moi, en fait, j'ai perçu un peu le rétablissement comme étant des couches, un peu comme quand on fait des fouilles archéologiques, hein. On découvre une strate, puis là, on creuse encore, puis on découvre d'autres choses, puis là, on arrive dans une autre strate, puis il y a toujours des découvertes fossilisées, en fait, qu'on met à jour, donc...
C'est donc un cool, cette image-là.
Mais moi, j'aime ça projeter ce genre d'image parabolique un peu... Fait que moi c'était ma perception du rétablissement, c'est qu'au début je grattais en surface puis je faisais des découvertes pas mineures, mais parce que ça m'analyse le mot, mais je faisais des petites découvertes, puis plus je creuse, puis plus je trouve que là on touche à de quoi qui est plus ancien, là, tu sais. Donc ça fait mal par étapes quand on fait des découvertes, puis qu'on se dévoile à soi-même au fil du temps. Il y a des bouts qui sont plus durs à accepter. Donc, faut constamment que je me ramène à l'humilité. Puis, moi, les étapes, je les pratiquais pas là, les premières années. Là, je le faisais à ma manière. Je dis, écoute, je me suis assez auto-jugé longtemps que je vais essayer de pas me culpabiliser au fait que je faisais pas ci ou je faisais pas ça. Parce qu'on me donne des suggestions, mais moi, étant bon dépendant, les suggestions, je prenais celles qui faisaient mon affaire. Hein. Donc, ça m'a pris du temps avant de me dire, ouais, OK, me ramener à la base, me ramener aux étapes. T'sais, je l'entendais tellement dans les salles, puis je me disais, bah, ma vie va bien, j'avais atteint un certain seuil de rétablissement que je considérais comme acceptable, je devenais plus citoyen, donc, c'était un piège, en fait, que j'avais à vivre, probablement. Parce que ce piège-là m'a ramené à me confronter à mes défauts de caractère, puis c'est juste retarder le processus, en fait. Fait que faut que je me ramène aux étapes. Je fais partie maintenant d'un groupe d'étapes qu'on fait sur une base le plus régulière possible, parce qu'on a tous nos vies, là, mais moi, je trouve ça important. Tu peux les pratiquer comme tu voudras. Moi, je les pratique de cette façon-là. Je les fais pas chez nous, assis sur mon bureau. Je les fais dans une rencontre avec 3-4 gars qu'on se réunit dans une cuisine chez la personne. Puis on jase de nos affaires. Puis moi, je trouve ça très important. Ça me permet de premièrement, d'avoir un anonymat absolu. Donc, une salle de meeting, il y a de l'anonymat, mais il y a différents stades, il y a différents grades d'anonymat. Moi, ce que je veux vraiment exprimer, sincèrement, je vais en parler soit à une ou deux ou trois personnes. Donc, pour moi, il a fallu que je me ramène à ce niveau-là de parce que c'est un meeting quand même. Là, on est 3-4 personnes, on n'est pas dans un meeting officiel. Mais c'est le format de meeting qui me permet d'être le plus à l'aise pour moi, là, un groupe d'étapes avec 3-4 cas pour être en mesure de tout compter ce que je peux vivre.
C'est bien parce que, ben, tu sais, aller dans une réunion d'abstinence régulière, c'est t'entends un partage. Bon, il y a des lectures, t'entends un partage, une remise de jetons, l'accueil du nouveau. Mais, tu sais, si tu vis des choses, toi, oui, tu peux en parler à un membre à droite, à gauche, dans la pause. Mais, tu sais, vous pouvez pas aller en profondeur puis aller travailler sur quelque chose. Bon, il y a l'after meeting. Mais là, dans ce que tu me parles, de ce que vous faites, toi puis ta gang de gars, c'est que vous partagez ensemble puis vous devez trouver des solutions. Puis vous partagez vos expériences, puis tout ça, là.
Tout à fait. On partage nos vécus, nos vies, on partage nos angoisses, on partage, en fait, on partage qu'est-ce qu'on a de plus profond un peu encore, là, que juste la surface. Parce que le meeting, c'est le fun, puis c'est correct. Puis il y a toute une sorte de... Il y a toute une panoplie de choses que tu peux faire, que je peux faire pour me rétablir. Écoute, il y en a des suggestions, là, dans NA, dans A. À quelque part, c'est comme un buffet, hein? Tu vas chercher un peu tout ce que tu as besoin, puis à un moment donné, tout ça va me ramener vers la base qui est le programme. On me le dit depuis le début, mais il faut que j'aille par mon processus, c'est mon processus à moi, puis j'accueille tellement le processus des autres, parce que dans mes débuts, je me disais non, c'est comme ça, puis... J'étais un peu contrôlant dans la façon que le meeting devait se dérouler, je faisais des business meetings, je m'impliquais plus, mais j'avais pas beaucoup de tolérance puis d'accueil à divergence d'opinion. J'étais assez rigide, hein, c'est comme ça. Puis j'en ai vu d'autres par après qui faisaient ça aussi. Avec le temps, j'ai appris à être plus low profile puis à plus la jouer. Comment je dis ça? C'est correct d'arriver, d'être vu et reconnu. Moi, je suis arrivé, je voulais aller lire en avant. C'était pas pour. C'était pour être vu et reconnu, là. T'sais, vraiment, là, j'étais dans un power d'ego, puis c'était correct à ce moment-là.
Mais t'en avais sûrement besoin.
J'en avais besoin, parce que
d'augmenter ton estime.
C'était pour augmenter mon estime, puis c'est une forme d'implication aussi. Fait que moi, la première implication, c'est de passer la carte de porte, comme tu disais au début. Deuxième implication, ça a été d'aller lire en avant. Pour moi, c'était... Ça commence comme ça, t'sais. Peu importe les motivations. Là, aujourd'hui, je me ramène aux motivations réelles, qui est pour... Aller là comme attrait, tu sais. Je m'assieds, j'écoute. Je parle plus d'un meeting. J'ai plus rien à prouver à personne. Tu sais, je vais pas là pour convaincre quelqu'un qu'il n'y a pas raison ou qu'il devrait faire ça de telle façon. Je donne même plus de suggestions, en fait. Je vais juste là pour essayer d'être l'attrait, tu sais, pour un nouveau. C'est ça mon but, là.
Transmettre.
Ouais, même transmettre parce que je suis ou ce que je vais dégager. Parce que en fait, j'ai pas de filleul, là, tu sais. Puis, à quelque part, peut-être parce que j'en ai pas. Je te dirais pas que j'en voudrais parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Mais je pense que t'as une vie assez occupée, là.
Ben, j'ai une vie occupée, tu sais. C'est les enfants, là, le travail. Bon, tu sais, on a toutes nos vies, hein, puis c'est normal. Mais si quelqu'un se présenterait en disant Mathieu, j'aimerais ça que tu me parraines, je le ferais. Puis pour ça, je me sentais pas prêt d'avoir des filles, puis parce que je faisais juste surfer sur une vague d'abstinence, là. Je faisais pas mes étapes, tu sais. Il me manquait quelques outils que j'avais à mettre en pratique pour dire, OK, oui, là, je serais capable de parrainer adéquatement quelqu'un, tu sais. Parce que le parrainage, moi, je trouve que c'est quand même sérieux. C'est un engagement de la part du parrain. De la part du filleul, c'est une autre affaire. Moi, j'ai eu des parrains que je prenais juste au début, puis je prenais ce qu'ils faisaient mon affaire, puis en toute humilité, ils n'étaient plus mes parrains, mais ils ne savaient pas encore, parce que j'avais trop peur de leur dire pour leur faire de la peine. T'sais. J'ai fait ça, ces choses-là. Puis c'est correct, regarde, aujourd'hui, je les croise, puis c'est mes chums, c'est mes amis. Fait que j'avais tellement peur de décevoir. Quand je suis arrivé, peur de me décevoir, peur de décevoir les autres. C'est une vieille peur qui est ancrée dans moi, la peur de déplaire, la peur du rejet. C'est des grosses émotions là, qu'il faut que je travaille, que c'est un travail perpétuel en fait. Là. Estime de soi.
C'est beau parce que, tu sais, dans le fond, ce que tu, depuis le début qu'on jase, c'est ta découverte de toi-même, dans le fond. Tu sais, t'as rencontré Mathieu dans une salle. T'as rencontré Mathieu dans ton rétablissement. C'était, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est qu'avant, tu te connaissais pas, tu savais pas toutes ces choses-là, tu savais même pas par quel bout de commencer pour travailler sur toi. Puis là, maintenant, où est-ce que t'es rendu, c'est que t'as découvert tout plein de choses, puis tu travailles là-dessus, sur, dans ton quotidien, sur ta personnalité, sur tes buts, tes objectifs, tes rêves, qui tu veux devenir, comment tu veux le devenir. Mais ça, avant, dans ton actif, c'était pas, ça n'existait pas. Là.
Ça n'existait pas. Ben, je te dirais, ça existait, mais c'était sous forme latente. Là, c'était pas, ça ne se développait pas.
Tu avais le goût, mais tu ne savais pas par ben comment oui. faire. Ouais.
En fait, je voulais devenir quelqu'un. J'avais une idée de ce que je voulais être. Puis, en fait, comme je le dis dans mes partages, moi, quand j'étais jeune, le côté rebelle des autres m'attirait, tu sais, je voulais être un punk, je voulais être un poêle, je voulais être un, tu sais, je voulais être le super-héros qu'on voit à TV, tu sais, je voulais être fort, je voulais être grand, tu sais, je voulais et même enfant, je voulais être de même. Fait que déjà là, moi, j'avais un déphasage de personnalité entre ce que je voulais être et ce que j'étais vraiment. Puis moi, mon mal-être intérieur, il est né de ça, tu sais, il est né du fait que je voulais être ça,
T'étais pas, tu voulais être.
C'est ça. Fait que là, je reviens 30 ans plus tard en me disant, ben là, non, j'ai accueilli ce Mathieu-là qui est lui, il donnait de l'amour. Dire, Mathieu, tu ne seras pas autre chose que ce que t'es. Fait que travaille là-dessus. T'sais, arrête de travailler sur ce que tu voudrais être, parce que voudrais être, c'est d'autres choses. En fait, j'étais un bon gars, j'étais un citoyen, j'ai des enfants, j'ai atteint plusieurs buts là, dans ma vie. Là. Donc, je suis très fier. Là. Oui, j'ai fait des choses, même dans mon rétablissement, qui m'amenaient à être pas bien, pas heureux. Mes choix n'étaient pas toujours adéquats. Mais ça fait partie de mon processus. J'ai arrêté de me culpabiliser par rapport à ça. Je me suis pardonné.
Puis sûrement aussi, tu sais, quand tu consommes, ta conscience est tout le temps... tu peux justement la calmer par le fait, bon, tu fais de niaiseries, après tu reconsommes, fait que ça calme la conscience puis tout ça. Mais là, à jeun, tu dois plus faire n'importe quoi parce que quand tu te couches le soir, le lendemain, tu t'en souviens puis tu peux pas mettre ça sur la faute de la conso. Là.
Ah, tout à fait. Là, je veux dire, ma vie a changé. Là. Je fais plus les mêmes, je fais plus de niaiseries comme je faisais dans mon actif. Là. Je veux dire, je suis responsable... je fais ce que j'ai à faire, là, c'est correct. Là. Le côté citoyen, ce que j'ai à faire, c'est bien.
Il y a pas une lecture ou quelque chose qui dit ça, un être responsable, respectable?
Acceptable, responsable et productif. Moi, ça m'a resté dans la tête. T'sais, les phrases, là, à force de me faire répéter, parce que moi, au début, je me disais, hey, c'est tout la même maudite lecture quand on rentre d'une salle, puis ça devenait répétitif. Je me suis questionné à un moment donné sur qu'est-ce que je fais ici, dans les salles, parce que je me disais, pas encore à soir, on passe par cette étape-là dans notre établissement, à un moment donné, de se questionner sur la fréquence des meetings qu'on a à faire, parce que je me disais, bon, ça va être les mêmes personnes, ça va être les mêmes lectures, ça va être le même genre de partage, ça va être. En fait, à un moment donné, il a fallu que j'arrête de faire ça, puis de me dire, Mathieu, tu vas y aller, puis tu vas écouter. C'est là que j'ai commencé à arrêter de parler dans les salles, puis à essayer de me la jouer. C'est de me dire, tu vas y aller, tu vas fermer ta boîte, puis tu vas écouter, Mathieu. Tu vas écouter, puis tu vas accueillir, puis tolérer les autres. Parce qu'il y avait des affaires qui me dérangeaient dans les salles, tu sais. On passe tout par cette crise-là de pas un tel, le partage, qu'est-ce que je fais ici, c'est plate. À cette heure, je souris intérieurement quand je vais faire un meeting en me disant, je suis passé par là, j'étais là, j'ai fait ça. Fait que tout ce que je jouais dans les salles, le monde qui rit fort, le monde qui sont contrôlants, le monde qui partage en avant. Toutes ces choses-là, je les ai toutes faites. Fait qu'à ce temps, je me vois à travers vous autres, tu sais. Je me vois à travers tout ce que vous êtes, nouveau, pas nouveau, vieux, pas vieux. Fait que moi, je m'identifie à vous autres. Puis c'est ça qui a été important, puis c'est ça qui me ramène dans les salles, c'est que je suis pareil comme vous autres. Là. Fait que quand je vous vois, je sais que vous êtes pareil comme moi. Fait que je me sens comme à ma place. Tout ça, j'en reviens.
Pour ceux qui nous écoutent, Mathieu, pour les gens, dans le fond, qui cherchent à aller mieux, parce que je me doute que les gens qui vont nous écouter, c'est ça, hein, c'est à la recherche de toujours s'améliorer. Aurais-tu un conseil, une suggestion de quelque chose que tu as appris, dans le fond, dans ton rétablissement, puis que tu voudrais transmettre à ces gens-là?
Oui. Moi, quand même abstinent, là, j'ai eu des périodes là, où ça allait vraiment mal dans ma vie, je te suggère, va faire un meeting, puis dis-le, parle-en à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, là, avec le temps, tu vas développer des connaissances, pour retomber dans l'isolement. L'isolement, pour moi, c'est néfaste, donc si j'ai tendance à retomber dans l'isolement, c'est vraiment pas bon. Parce que quand ça se met mal à aller, je me dis que je suis capable de régler ça tout seul, j'ai pas besoin de personne, voyons, je suis capable, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Non, ces choses-là ne marchent pas. J'ai besoin du nous. Fait que si à un moment donné, ça peut arriver d'aller moins bien, reviens faire un meeting puis dis-le que ça va pas bien. C'est important. Moi, je l'ai fait puis j'en ai vu plein qui ont fait ça. Moi, j'en ai vu du monde arriver en pleurant dans les salles avec 10 ans d'abstinence disant je vais pas bien, si. Puis ça lui faisait du bien d'en parler, puis il revenait, puis il revenait, puis moi je revenais, puis je le disais encore. Puis le secret là-dedans, c'est que ça finit par passer. Tout finit par passer. Fait que si tu vas pas bien, je parle au-dessus parce que c'est une suggestion qu'on me demande de vous donner. Il n'y a aucune bonne raison de retourner ce jeu. Moi j'ai compris cette boucle-là, je me disais, peu importe ce qui arrive, j'y retournerai pas.
Ça ira pas mieux parce que tu recommences.
Ça ira pas mieux. C'est clair que ma vie, je l'ai saigné, mais ça va pas mieux. J'ai dit, ben, regarde. Un autre, je peux finir là-dessus. On est pas mal à la fin, je pense, mais la dernière image que je veux projeter, c'est l'image d'un boxeur qui est rendu trop vieux pour aller se battre dans le ring. J'étais allé me battre dans le ring contre la dépendance, puis j'ai perdu à chaque fois. Fait que quand j'allais bien, je me disais, ah, peut-être que je pourrais aller me battre contre la dépendance, puis non, ça donne rien. Fait que à un moment donné, j'ai compris que j'étais rendu trop vieux pour. J'ai rendu trop mieux, j'avais assez donné. Fait que, je me suis fait imprégner du sentiment que j'étais dû pour prendre ma retraite. Fait que à un moment donné, j'ai vraiment abdiqué, là, j'ai fait une vraie première étape. Une vraie première étape, là, c'était non, c'est fini, là, moi je prends ma retraite, j'accroche mes gants, je laisse la place aux autres. T'sais, c'est une espèce de move-là de lâcher prise complet là, sur. Non, moi c'est. Là, j'ai vraiment tourné la page sur sur l'actif. Là, moi, c'est même plus une option. Peu importe, là, juste pour aujourd'hui ou pas juste pour demain, moi j'ai la ferme intention de plus jamais y retourner. T'sais. Fait que c'est l'image que je veux vous dire. C'est que moi j'ai pris ma retraite. Je vous laisse la place, les jeunes. Si vous la voulez, moi je vous la laisse. Mais plus pour moi en tout cas. Pas pour vous autres sûrement là, parce que vous m'écoutez, mais plus pour moi en tout cas. Ça, c'est ça.
Wow! Merci Mathieu! Ça, c'était vraiment sur le fly de profiter de l'occasion que tu es ici aujourd'hui, puis que je savais même pas que c'était une intervenante qui m'a dit, tu sais, la synchronicité de la vie, hein. Hier, je me disais, ah, c'est qui, tu sais, il y a tellement de monde qu'on veut avoir en entrevue, puis on parlait avec les intervenants, puis là, ce matin, Ginny me dit, ben, Marie-Josée, savais-tu que Mathieu est là aujourd'hui? Ah, non, je savais pas, ben, Colin, je chercherai pas aujourd'hui, c'est Mathieu, c'est aussi simple que ça. J'ai envoyé ça dans l'univers, puis pouf, t'es arrivé! Puis toi, d'avoir tout ça à nous partager, je suis certain que, en tout cas, moi, tu m'as aidé aujourd'hui. T'as livré un message d'espoir. Tu nous as montré ta vulnérabilité. Tu nous as parlé de tes difficultés, puis tout ça. Puis que c'est pas facile, le rétablissement. Puis qu'on n'est pas facile, peu importe, dépendant, pas dépendant. Tu nous as dit, ben, tout le monde a des comportements. Puis de pouvoir travailler là-dessus. Fait que même quelqu'un qui nous écoute, puis qui aurait pas de problème de dépendance, tout ça s'applique aussi. De grandir intérieurement puis de vouloir mieux aller puis mieux se connaître parce que c'est une grande découverte de soi-même. Merci.
Tout à fait. Merci, ça me fait plaisir.
Bonne journée.